Participait à ce panel Claude Vielfort de la compagnie iLife, qui compte au-delà de 84 000 truies dans 29 maternités dans l'Ouest canadien et produit 2 millions de porcs par année. Également Luc Dufresne, chef vétérinaire pour Seaboard Food aux États-Unis, qui opère 78 maternités logeant 340 000 truies. Seaboard met en marché 63 000 porcs par jour. Et troisième panéliste, Luc Ménard, président de F. Ménard, entreprise familiale québécoise, mettant en marché environ 1 100 000 porcs par année. Le bien-être animal est aujourd'hui dans les obligations des entreprises, mais les règles ne sont pas les mêmes partout. À preuve, ce que répondait Luc Dufresne à l'agronome Vincent Cloutier des éleveurs de porcs du Québec.
L'Europe a banni les cages de gestation en 2013, puis il y a des pays comme le Danemark qui réfléchissent même à bannir les cages de mise bas. Bon, au Canada, il y a un code de pratique qui mentionne pour le moment la date de 2024. Il y aura révision du code au cours de l'année 2019. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États, majoritairement des petits producteurs, on se parlait de la Floride, de l'Arizona, le Colorado aussi, qui ont banni les cages de gestation. On observe que bien qu'il y ait une géométrie variable, il y a une certaine trajectoire qui semble se dessiner. Luc Dufresne, Seaboard garde 85 % de ses truies en cage. Pourquoi, lors de la construction récente de maternité, Seaboard a-t-il privilégié le logement des truies en cage, ce qui, à première vue, peut sembler un peu à contre-courant?
Essentiellement, la position qu'on a prise à ce moment-là était une qu'on était un des producteurs relativement visibles qui avait gardé la position que les cages étaient encore une position qui était viable et une position adéquate au niveau bien-être animal. On a notre production au Colorado, on a 42 000 truies au Colorado qui sont en parc à cause du changement de loi. On a deux autres fermes aussi, ça fait qu'on a 50 000 truies actuellement qui est en parc de gestation et qu'on est capable de mettre en marché de façon différente, où on n'a pas nécessairement capturé la valeur complète de ces animaux-là jusqu'à maintenant. Ces positions-là ont été poussées aux États-Unis, qui est un petit peu différent. On n'est pas législé par le gouvernement, on est législé par les acheteurs de viande. On est législé par les McDonald's, par les Walmart et ces compagnies-là qui prennent une position sur le bien-être animal qui est essentiellement basée plus sur les valeurs actionnaires que la demande de leurs clients. Fait qu'on on a un petit peu une position qui est un stand-off, je te dirais, sur ce côté-là. C'est sûr que dans les nouvelles fermes qu'on a fait, les fermes sont construites sur du tout laté avec des cages qui fait que si on est forcé à changer pour aller en parc, ce ne sera pas des dépenses majeures de faire ces modifications-là. Mais pour nous, et jusqu'à maintenant, avec les systèmes de régie qu'on a, les meilleures performances et les meilleurs bien-être sur une base mortalité.
Au Canada, on poursuit la conversion des maternités et l'aménagement des nouveaux bâtiments pour l'élevage en groupe détruit. Mais il faudra encore quelques années pour compléter l'opération. Luc Ménard, mais d'abord Claude Vielfort de iLife.
Le code a été négocié en 2014 et puis la revue du code est supposée d'arriver en 2019. C'est sûr que le premier sujet qui va être discuté, c'est les truies en parc. On sait que les détaillants ont décidé 2022, ils nous ont déjà dit, il y a 3-4 années, qu'ils veulent avoir de la viande des truies en parc en 2022. Le code en 2024 dit qu'après ça, il va falloir donner de l'exercice à nos truies. Alors, il va certainement avoir beaucoup de discussions en 2019 avec la revenue du code de savoir où est-ce que ça va aller. Ça, c'est l'industrie canadienne. Notre compagnie High Life, nous autres, on est... comme que nos cages, ils sont après vieillir, puis il faut qu'ils se fassent remplacer, rénover. On est après virer nos étables dans des maternités en parc, comme que notre équipement, il faut qu'elle soit remplacée.
Luc, quelques mots?
Je pense qu'on ne s'en sortira pas là. C'est vrai, je suis un peu comme d'accord avec Luc, il n'y a pas grand plus-value. Il n'y a pas de clients qui nous disent « je vais payer plus cher si tu as des truies en cage ». On était toujours vraiment pro-actif sur le bien-être animal. Puis autant les guns électriques, plein d'affaires qu'on a faites comme précurseurs dans l'industrie. J'avais vraiment peur chez nous. On avait peur des truies en cage. On disait « on n'aura jamais de résultats ». On s'est bâti une maternité il y a 2 ans, 3 ans à Saint-Dominique. qui a coûté 8,5 millions, puis qu'on est à 2 700 truies là-dedans. Puis vraiment, on est surpris des résultats zootechniques. Là. Et mon staff, dans le fond, eux autres avaient peur de la bataille, de la réforme. Puis là, on se tient à moitié de la mortalité. Cet été, il a fait super chaud. On a perdu beaucoup de truies dans des systèmes à cage. Puis dans cette ferme-là, on n'a pas perdu. Non. Moi, je pense que c'est une tendance. On est obligé d'y aller. D'ici 2022, c'est sûr qu'on ne passe pas, nous autres, chez F. Ménard. On a une vingtaine de fermes à faire, à voir les discussions qui sont présentement, que ça va être reporté avec la durée de vie de la porcherie. Je pense que ça va devenir plus raisonnable qu'une date comme ça. Oui, on veut toutes les faire. Oui, il faut investir, mais ça fait partie d'un changement. Il y a des fermes qui sont mal situées, qu'on va fermer, ou bien donc qu'on va changer en engraissement, qui sont situées à, je sais pas moi, des places que beaucoup de cochons, ou bien non, qu'on est vraiment proche des engraissements. Puis d'autres fermes qu'on va dire, bon, bien, elle est à 1500 truies, on la change en 3000, à cette heure, on a le droit à 3200 truies au Québec, fait que là, c'est déjà une grande avancée. Donc, c'est ça qu'on va faire, puis on va les transformer tranquillement, pas vite, une après l'autre, pendant les prochaines années.
Par ailleurs, autre question délicate en production porcine, la castration des jeunes mâles. Chez F. Ménard, il n'y a plus de castration comme telle. On injecte au porcelet des protéines qui donnent le même résultat que la castration. Luc Ménard.
En Europe, il y a déjà des pays qui empêchent l'Angleterre, entre autres, puis je ne sais pas quel autre pays, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, dans ce coin-là, qui interdit carrément la castration. Il y a un paquet d'autres pays qu'il y a des deadlines pour interdire la castration. Il y a d'autres solutions qui existent. Les compagnies de génétique travaillent fort là-dessus. Il y a 5 % des cochons, des VRA, de 5 à 10 % qui ont une odeur de mâle. Les compagnies de génétique ont à travailler là-dessus, mais en attendant, pour nous autres, ça nous semblait, mais on n'a pas fait ça comme ça, on switch parce que... Nous autres, l'immunocastration, on l'a testé depuis 2009. On était en 2018, là. C'est en 2009, on a fait plusieurs tests, un après l'autre, pour vraiment comparer avec des castrats. Puis ça nous a emmené 4-5 ans après. On a mis une pyramide sur les 24 pyramides qu'on a chez nous sur l'improviste. Après ça, un autre pyramide. Puis il y a des gains zootechniques à faire là. Les cochons ont plus d'appétit. C'est vraiment mieux que castrer des cochons. Tout ça, moi je pense que... C'est la voie, mais c'est pas si facile que ça à appliquer non plus. Là. Il faut vraiment être une compagnie qui est intégrée, qui contrôle tout. On a les vaccinateurs. On a des équipes de gars qui vaccinent. C'est tough là, à appliquer avec un abattoir qui achète des cochons de plusieurs producteurs. Mais je pense que c'est un bon produit. Puis je pense que ça va passer le test. C'est mieux que castrer des cochons. Peut-être qu'il va arriver d'autres nouvelles recherches qui vont faire qu'on n'aura plus besoin de castrer des cochons. Mais...
Les acheteurs de porc, de grandes compagnies en particulier, ont parfois des réticences. Claude Vielfort, suivi de Luc Dufresne.
Il va falloir trouver des manières de ne pas castrer dans le futur. Mm-hmm. C'est certain, on voit ce qui est arrivé en Europe, et puis ça va arriver. En fait, comme que Luc a dit, les compagnies de génétique, je pense qu'il y a des marqueurs qui sont après travailler dessus, d'essayer de trouver une génétique qui va se débarrasser des odeurs de Vera. Mais entre-temps, il y a des produits comme l'improvest qui est certainement un produit intéressant, qui aide à ne pas casser les cochons, puis je pense que c'est une bonne solution.
Puis les acheteurs répondent bien?
Les acheteurs répondent bien, oui.
Luc, tu ferais quelques mots là-dessus?
Nous autres, on n'a malheureusement pas la même expérience au niveau des acheteurs parce qu'au niveau performance, on a essayé le produit. Au début, on a eu des difficultés à le faire fonctionner, mais dans nos derniers tests, il a travaillé relativement bien. Mais on a deux gros acheteurs essentiellement qui refusent aucun produit injecté à l'improviste avec des peurs qui sont complètement stupides, mais qui sont difficiles à réfuter. C'est le problème qu'on a fait face de ce côté-là, où on essaye d'éduquer les jeunes, d'être capable de mouver à l'autre step, mais essentiellement, ça a été une technologie qu'on n'a pas été capable d'adapter essentiellement à cause des personnes qui achètent de nos produits.
Avez-vous lancé la serviette?
Non. On va continuer à pousser parce que de plus en plus de gens qui utilisent le produit, qui montrent la valeur d'élever des Vera et TAC et aussi développent, les besoins nutritionnels sont plus compris. Fait que la valeur de ces types de produits-là augmente. Ce qui fait que ce produit-là va avoir, jusqu'à temps qu'on trouve une solution au niveau de contrôle des phéromones pour enlever ces problèmes-là, génétiques ou nutritionnels ou une combinaison des deux. Je pense qu'il y a une valeur au niveau du Vera, au niveau zootechnique, que si tu peux élever un animal complet qui est définitivement là.
Luc, là-dessus, est-ce que tu as déjà fait face ou observé ou entendu quelques résistances de la part de ceux à qui F-Menard commercialise sa coupe?
Les premières résistances, c'est sûr, ils sont venus de la famille chez nous. C'est immédiat, les résistances qui arrivent. Puis le défi est tout là, de convaincre, de faire comprendre comment ça marche. Puis que c'est une protéine, que c'est pas un antibiotique, c'est pas une hormone, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis là, c'est plus des jobs de vétérinaire à faire ça. Ils sont plus qualifiés. Mais malgré tout ça, moi, je pense que c'est mieux ça que castrer un cochon à foie. Puis même si tu dis que tu l'injectes, puis ça y fera pas mal, que tu injectes un antidouleur 30 secondes avant, là. Je pense que c'est le futur, mais il faut faire comprendre qu'il y a un défi consommateur à faire.
Ici Lionel Levac. Il est certain que plus tôt on trouvera le moyen de cesser complètement la castration des porcelets, mieux ce sera. L'évolution des connaissances en élevage et en régie des troupeaux donne déjà des résultats probants. Par exemple, avec des truies gardées en groupe plutôt qu'en cage. Donc, si par croisement on trouve les bonnes lignées, probablement que l'on pourra cesser de castrer les porcelets ou même cesser de neutraliser les odeurs non souhaitées par l'injection de protéines. Au revoir.